Bonjour à tous, aujourd'hui enquête sur Emmanuel Macron et l'Église catholique. Nous avons décrypté le discours du chef de l'État, enquêté sur sa stratégie politique pour s'attirer les faveurs du monde catholique. On va voir ça avec vous, Laetitia Chérel, bonjour.
Bonjour.
Et puis nous recevrons Martine Orange, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes journaliste à Mediapart et vous avez enquêté sur un conflit d'intérêts qui pose beaucoup de questions à propos de l'actuel secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler.
France Inter, secret d'info, Benoît Colomba.
Pour nous retrouver ici ce soir, Monseigneur, nous avons sans doute, vous et moi, bravé les sceptiques de chaque bord. Et si nous l'avons fait, c'est sans doute que nous partageons confusément le sentiment que le lien entre l'Église et l'État s'est abîmé et qu'il nous importe à vous comme à moi de le réparer.
Voilà, c'était le 9 avril dernier au collège des Bernardins en plein Paris, devant les évêques de France, le président de la République Emmanuel Macron parle du lien abîmé entre l'Église et l'État, un lien qu'il faudrait selon lui réparer. Alors vous avez peut-être déjà entendu cette petite phrase, elle a provoqué beaucoup de critiques et de commentaires, on va y revenir. Mais à Secret d'Info, on a voulu aller plus loin, reprendre ce discours de A à Z, le passer en quelque sorte au révélateur, décrypter la stratégie politique du chef de l'État, ce qui se cache derrière les mots. Et pour comprendre, Laetitia Chérel, il faut d'abord revenir à cette fameuse soirée du 9 avril.
Alors ça se passe sous les voûtes du prestigieux collège des Bernardins, le lieu de rencontre et de débat des catholiques. Un président chez les évêques, c'est une première depuis la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905. Le chef de l'État prononce un discours d'une heure devant le gratin du monde catholique. La journaliste spécialiste des religions à Libération, Bernadette Sauvager, y était.
400 invités triés sur le volet, représentant les forces vives du catholicisme. Une soirée très courue, il y a beaucoup de gens qui ont demandé à y être et qui n'ont pas pu y être. Une trentaine d'évêques alors qu'avaient évité la soutane, complet veston, mais pas de soutane. Un choix, je pense, très républicain. Il y avait une espèce de volonté de réconcilier l'Église catholique avec l'État. Tout le monde était très content de ces retrouvailles.
Tout le monde était content, une soirée très courue, des retrouvailles entre l'Église et l'État, dit cette journaliste. Mais pourquoi elle parle de retrouvailles ?
Alors, des retrouvailles parce que, sous la présidence de François Hollande, les relations entre l'Église et l'État s'étaient, disons, nettement rafraîchies, pour ne pas dire dégradées. On se souvient de la très vive opposition de certaines franges du catholicisme au mariage homosexuel, et ça a laissé des traces de part et d'autre, d'où une volonté mutuelle de réconciliation.
Et qui est à l'initiative de ces retrouvailles alors ?
Alors ce sont clairement les évêques de France. Un mois après l'élection d'Emmanuel Macron, il lance une invitation officielle au président de la République. C'est le porte-parole de la conférence des évêques de France, Vincent Némon, qui s'en est chargé.
La réponse a été dans la seconde, mais évidemment qu'il viendra. Il n'y a pas de raison qu'il ne vienne pas. C'était très simple en fait.
C'était très simple, l'Élysée a dit oui dans la seconde, ça a été vraiment si simple ?
Alors, pas tout à fait, parce que selon l'entourage d'Emmanuel Macron, avant de donner son feu vert, l'Élysée a tenu à revenir sur un épisode qui a été plutôt mal vécu dans l'entre-deux-tours de la présidentielle.
C'est-à-dire ?
Une petite phrase du pape François, à qui un journaliste a demandé son avis sur les deux candidats français du deuxième tour, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, et écoutez le commentaire du pape.
Concernant les deux candidats, je ne connais pas l'histoire, leur parcours. Oui, je sais que l'un représente la droite forte, mais l'autre, je ne sais pas d'où il vient. C'est pourquoi je ne peux pas donner un avis éclairé sur la France.
L'autre, Emmanuel Macron, donc je ne sais pas d'où il vient, dit le pape à l'époque. Oui, donc cette phrase, elle a visiblement été dure à avaler pour les partisans d'Emmanuel Macron. Mais il n'y a pas que ça qui les a agacés.
Oui, parce que dans cet entre-deux-tours de 2017, l'Église de France ne se positionne pas clairement sur le candidat à soutenir. C'est ce que nous explique le directeur du département opinion de l'Institut de sondage IFOP, Jérôme Fourquet.
Contrairement à 2002, quand Jean-Marie Le Pen avait été qualifié pour le deuxième tour face à Jacques Chirac et où l'ensemble de l'épiscopat avait très clairement pris position en lançant un appel à voter pour Jacques Chirac, les catholiques sont un peu livrés à eux-mêmes, même si on lit entre les lignes, c'est quand même plutôt un appel à faire barrage à Marine Le Pen, mais qui n'est plus aussi explicite qu'en 2002. les évêques ont pris la température et savent qu'une partie de leur base va voter ou est tentée de voter pour le Front National.
Oui, donc pas de consigne de vote claire de l'Église catholique, contrairement à 2002. Et ça aussi, ça a fait partie de la mise au point de l'équipe présidentielle avec les évêques ?
Ah oui, selon mes informations, il en a vraiment été question. Et l'idée donc avec cette invitation aux Bernardins, eh bien c'était de recoller les morceaux entre l'Église et le chef de l'État.
Alors voilà donc pour la genèse de la venue d'Emmanuel Macron devant les évêques de France. Revenons maintenant sur ce fameux discours. On l'a dit tout à l'heure, il y a une phrase qui a fait couler beaucoup d'encre.
Ah oui, c'est celle sur le lien abîmé entre l'Église et l'État et qu'il faudrait réparer. Une phrase qui a entraîné une avalanche de critiques, surtout à gauche, où on dénonce une attaque contre la laïcité. Écoutez Manuel Valls et Jean-Luc Mélenchon pour une fois sur la même ligne.
Il y a des sujets que je n'ai pas compris dans l'intervention du président de la République, notamment quand il évoque le lien abîmé entre l'Église et l'État. Où est le lien abîmé ?
C'est une erreur irresponsable de dire que le lien entre les Églises et l'État ayant été abîmé, il faudrait le réparer.
Alors une autre voix critique, c'est celle de Jean Glavany. L'ancien ministre socialiste et spécialiste de la laïcité explique pourquoi, selon lui, parler de lien avec l'Église n'a pas de sens.
Il n'y a plus de lien institutionnel entre les Églises et l'État depuis 1905, puisque ça a été une loi de séparation des Églises et de l'État. Le pouvoir religieux n'a plus capacité à infléchir les affaires de l'État. Et inversement, l'État n'a pas à s'immiscer dans les affaires religieuses. Donc le lien, il a été coupé en 1905. Et donc que le président de la République parle du lien, d'un point de vue institutionnel, ça pose problème.
D'un point de vue institutionnel, ça pose problème, dit Jean Glavany, mais tout le monde n'est pas forcément sur cette ligne.
Ah oui, par exemple, pour l'historien Camille Pascal, qui est aussi l'ancienne plume de Nicolas Sarkozy, des liens existent bien entre l'Église et la République.
Je rappelle qu'il y a des aumôniers militaires qui sont payés par l'État. L'État finance et reconnaît l'enseignement catholique. Donc, avoir sursauté à l'idée qu'il y avait un lien entre la République et l'Église est absurde.
Et donc, pas de quoi sursauter, estime l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Mais il n'y a pas que cette phrase qui en a fait sursauter plus d'un dans ce long discours d'Emmanuel Macron au monde catholique.
Ah oui, parce que pour renouer le dialogue avec les catholiques, le président n'a pas hésité à aller assez loin dans son expression. Écoutez par exemple cette simple phrase.
Un président de la République prétendant se désintéresser de l'Église et des catholiques manquerait à son devoir.
Un président qui se désintéresserait de l'Église et des catholiques manquerait à son devoir, affirme Emmanuel Macron. Mais il n'y a pas que ça, Laetitia.
Oui, il y a tout un vocabulaire pour bien montrer que le chef de l'État est très attentif aux catholiques. Par exemple, il répète une dizaine de fois « j'entends, j'écoute ». On a fait une petite compilation.
J'entends l'Église. J'entends votre voix. J'entends la place essentielle que vous donnez dans notre société à la famille, aux familles, oserais-je dire. J'entends les recommandations que formulent les instances catholiques, les associations catholiques. En écoutant l'Église sur ces sujets, nous ne haussons pas les épaules. Nous l'écoutons avec intérêt, avec respect, et même nous pouvons faire nôtre nombre de ces points.
Oui, donc là, ce sont des extraits, mais on comprend que le message présidentiel est très appuyé, on vous écoute et on vous respecte, on ne hausse pas les épaules. Mais il va aussi sur le terrain historique.
Oui, tout au long de son discours, le président affirme que l'Église fait partie intégrante de l'histoire de France et surtout de la nation française. Nous avons à nouveau sélectionné plusieurs passages. Écoutez.
Oui, la France a été fortifiée par l'engagement des catholiques. Et c'est là que la nation s'est le plus souvent grandie de la sagesse de l'Église. Et je suis convaincu que la sève catholique doit contribuer encore et toujours à faire vivre notre nation.
Mais la France fortifiée, la sagesse de l'Église, la sève catholique qui fait vivre notre nation, effectivement, les mots sont assez frappants.
Et ce sont ces mots-là, cette vision-là de l'histoire de France, qui font à nouveau réagir le socialiste Jean Glavany. Pour lui, l'Église a plutôt combattu que fortifié la République, et notamment l'ancien pape Pie XI.
La République, contrairement à ce que dit le président de la République, ne s'est pas fait avec l'Église catholique, mais contre elle. Le parti religieux s'est opposé à la République, aux lois Ferry. Il faut se souvenir des positions prises par Pionze, qui excommuniait ceux qui voulaient réconcilier l'Église et la République. Ça a été d'une grande violence, et donc dire aujourd'hui que l'Église catholique a conforté la République ou a aidé à l'établir est un non-sens politique, et je ne comprends pas pourquoi le président dit des choses pareilles.
C'est un non-sens politique, dit Jean Glavany, et qu'est-ce qu'on répond du côté de l'Élysée ?
Nous avons interrogé le porte-parole de l'Élysée, Bruno Roger Petit. Il s'agit pour Emmanuel Macron, à travers ce discours, de réconcilier, je cite, « des pans de la société française très clivés qui ne se supportent plus les uns les autres » et donc de « faire nation », selon les mots de l'Élysée.
France Inter, secret d'info.
Alors on a vu les coulisses de l'invitation de l'Église à Emmanuel Macron, on a vu les mots utilisés par le chef de l'État pour inscrire les catholiques dans un récit national. Voyons maintenant les références précises qu'il a utilisées dans ce fameux discours.
Il a cité de nombreux auteurs et penseurs de toutes les sensibilités catholiques, une vingtaine de noms au total. Ça va de François Mauriac à Maurice Clavel en passant par la philosophe Simone Veil, une accumulation de références qui n'a pas échappé aux journaliste de La Croix, Gauthier Vaillant.
Ça a même fait sourire certains parce que je pense qu'à ce stade on peut parler de name dropping. Ça donne par moments le sentiment qu'il a voulu donner des gages, prouver la qualité et l'ampleur de ses références intellectuelles chrétiennes en citant un maximum de noms. Il a essayé vraiment de s'adresser avec ses références à toutes les sensibilités et de montrer en plus qu'il les connaissait toutes.
Il a voulu parler à tous les catholiques, de droite comme de gauche, dit ce journaliste de La Croix, en accumulant les références à des auteurs. Mais il a aussi fait allusion à son propre parcours.
Oui, il le dit lui-même au détour d'une phrase. « Je me fais une haute idée des catholiques pour des raisons biographiques, personnelles et intellectuelles. »
Alors là, il faut décrypter, Laetitia.
Emmanuel Macron a baigné dans un environnement catholique. Il a étudié dans une école jésuite, il a demandé à se faire baptiser à l'âge de 12 ans. Et puis bien plus tard, entre 2010 et 2017, il a intégré le comité de rédaction de la revue Esprit qui parle souvent de religion. Et pour Jean-Louis Schlegel, le directeur de la revue Esprit, ça a forcément imprégné le président.
Nous sommes une revue qui ose parler des problèmes de religion. Et donc aussi du christianisme. La religion n'est absolument pas un sujet tabou. Au contraire, nous pensons plutôt à Esprit aujourd'hui que c'est un sujet important.
La religion, un sujet important pour la revue Esprit. Où est passé Emmanuel Macron ? Ce monde catholique lui est donc familier, on l'a bien compris. Et dans son discours, il veut aussi montrer aux catholiques qu'ils parlent leur langage.
Et ça, on le constate dans un passage précis du discours, quand il évoque la bioéthique, la fin de vie et les migrants. Trois thématiques sur lesquelles il est très attendu par les catholiques. Écoutez attentivement cet extrait.
Entre la vie de l'enfant à naître, celle de l'être parvenu au seuil de la mort ou celle du réfugié qui a tout perdu, vous voyez ce trait commun du dénuement, de la dunité, de la vulnérabilité absolue.
Bon, on a écouté l'extrait, Laetitia. La vie de l'enfant à naître, de l'être parvenu au seuil de la mort. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ?
Alors, ça vous a peut-être échappé, mais l'expression « la vie de l'enfant à naître » n'est pas du tout anodine. C'est la formule utilisée par ceux qui considèrent que dès le début de la grossesse, le fœtus est un être humain à part entière, comme l'explique le journaliste de La Croix, Gauthier Vaillant.
Effectivement, c'est le terme qui est utilisé par tous les opposants à l'avortement et par l'Église qui est contre l'avortement, qui l'a toujours été et qui le redit régulièrement. Donc le fait que Emmanuel Macron l'utilise, pour moi, ne veut absolument rien dire de sa position sur l'IVG, mais est une manière de dire à son public ce soir-là au Bernardin « Je connais votre langage et je sais le parler ». Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de catholiques qui ont été sensibles à ça.
Cette stratégie, elle est parfaitement assumée par l'entourage d'Emmanuel Macron. Si on veut se faire comprendre, il faut avoir une convergence sémantique, nous explique l'Élysée. Ça n'empêche pas le président de faire passer un message assez clair au détour de ce discours. « Je n'attends pas de leçon de l'Église, mais sa sagesse d'humilité », dit le chef de l'État. Un peu comme si le président avait enfilé un col romain, ironise l'éditorialiste de France Inter, Thomas Legrand.
Il leur fait la leçon avec leur propres mots, sagesse d'humilité. Tout ce discours était étonnant parce qu'au Bernardin, sous les voûtes, comme ça, ça résonnait un peu, il baissait la voix, on aurait dit un sermon. Il y avait une petite pointe de démagogie quand même et d'adaptation à son public.
Secret d'info sur France Inter.
Alors on a vu comment, à travers des auteurs ou des expressions bien précises, Emmanuel Macron a tenté de faire passer des messages aux catholiques. Voyons maintenant, Laetitia Chérel, quelle stratégie se cache derrière ce discours ?
Alors ce discours, il s'inscrit dans un agenda politique avec la révision des lois de bioéthique prévues cette année. Un sujet très sensible pour les catholiques, notamment l'ouverture aux couples de femmes de la PMA, la procréation médicalement assistée. Une promesse de campagne d'Emmanuel Macron.
Et la PMA, il en parle dans son discours aux évêques ?
Oui, il en parle, mais sans préciser ses intentions. Il rappelle simplement qu'il a lancé un grand débat sur le sujet, ouvert à tous les Français, et y compris à l'Église et aux autres religions. Comme s'il avait tiré les leçons de la mobilisation contre le mariage pour tous. C'était il y a 5 ans, quand il était secrétaire général adjoint de l'Élysée, rappelle Jérôme Fourquet, l'auteur du livre « À la droite de Dieu ».
Il a sans doute fait un retour d'expérience, comme on dit dans les entreprises, de la séquence précédente en disant « Faisons en sorte que seuls les noyaux les plus politisés, les plus militants défilent, mais qu'on ne soit pas dans une jauge qui soit démultipliée avec plusieurs centaines de milliers de personnes. » Mais je pense voilà, qu'il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour essayer de faire baisser le plus possible la température et de préparer le terrain sur une ouverture de la PMA.
Et pour mieux préparer le terrain à l'ouverture de la PMA, Emmanuel Macron, dans son discours, tient à rappeler à l'Église que ses positions sur la bioéthique ne s'imposeront pas forcément.
Donc on a bien compris que le chef de l'État marchait sur des œufs concernant la procréation médicalement assistée, avec comme objectif de limiter de nouvelles manifestations. Et justement, comment réagissent à ce discours les opposants à la PMA ?
J'ai posé la question à Ludovine de la Rochère, la présidente de la Manif pour tous, qui a fait descendre, souvenez-vous, des milliers de personnes dans la rue contre le mariage homosexuel. Certes, elle apprécie que des débats soient organisés sur les sujets bioéthiques, mais si ce qu'elle appelle la PMA sans père, c'est-à-dire la PMA pour les couples de femmes, était légalisée, ce serait alors pour elle une déclaration de guerre.
Si, mais je n'arrive pas à le croire, mais s'il devait y avoir un projet de légalisation de la PMA sans père, la mobilisation serait immense, parce que si c'était pour dire « maintenant on a bien débattu, puis point, on ferme la parenthèse, maintenant on y va », ce serait vraiment tenter de berner les Français. Ce serait se moquer des participants, ce serait se moquer de la démocratie. La réaction serait encore plus épidermique.
Ah oui, l'avertissement est très clair, mais il n'y a pas que la bioéthique où ça coince avec une partie des catholiques. Il y a un autre sujet qu'Emmanuel Macron a tenté de déminer dans son discours.
Oui, c'est les migrants. Un sujet sur lequel la politique du gouvernement est très critiquée par des associations, et notamment des associations catholiques. Dans son discours aux Bernardins, le président a défendu ce qu'il appelle son humanisme réaliste pour justifier sa politique. Une expression qui fait vraiment bondir Véronique Fayet, la présidente du Secours catholique, très présent auprès des migrants. Je l'ai jointe au téléphone.
Parler d'humanisme quand les migrants, les exilés qui sont sur notre territoire sont traités comme des chiens, ils sont poursuivis, ils sont harcelés, on a des milliers de personnes qui campent en plein Paris, on a des jeunes migrants, notamment des mineurs qui, à la frontière italienne, sont renvoyés vers l'Italie, alors ce qui est absolument illégal. On ne peut pas dire aujourd'hui que les exilés qui sont sur notre territoire sont traités de façon humaine.
Une politique inhumaine en matière migratoire, dit la présidente du Secours catholique. Et ça peut sembler paradoxal, mais toutes ces associations de terrain comme le Secours catholique, eh bien, il en parle beaucoup dans son discours, Emmanuel Macron.
Oui, il rend un hommage très appuyé à leur travail, tout en leur demandant d'en faire plus, c'est-à-dire de s'engager en politique. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup surpris dans ce discours. On écoute le président.
Ce à quoi je veux vous appeler ce soir, c'est à vous engager politiquement dans notre débat national et dans notre débat européen. Car votre foi est une part d'engagement dont ce débat a besoin. Ne restez pas au seuil. Ne renoncez pas à cette Europe dont vous avez nourri le sens.
Mais donc ce qu'on entend là, c'est un appel aux catholiques à s'engager en politique en France et en Europe. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, Laetitia, là ?
Ben, tout simplement qu'on a changé de registre. Il y a des élections européennes en 2019, une échéance politique très importante pour l'Élysée. Et avec cet appel à l'engagement, le chef de l'État veut envoyer un signal à l'électorat du centre et de la droite, estime le politologue Jérôme Fourquet.
Historiquement, on a toute une frange du catholicisme issue de la démocratie chrétienne qui a été un des maillons les plus importants dans la construction européenne et dans le combat européen en France. Une bonne partie est déjà ralliée à Emmanuel Macron, mais il y en a une partie qui est historiquement plutôt fidèle à la droite classique. Et c'est à cette partie-là de l'électorat catholique qu'Emmanuel Macron s'est aussi adressé dans le cadre de ce discours en disant « Ne vous laissez pas entraîner par des sirènes eurosceptiques », donc on peut penser bien évidemment à Laurent Wauquiez, voire peut-être à Marion Maréchal Le Pen. Donc c'était aussi un objectif électoral et politique.
Un objectif électoral et politique, dit ce politologue. Nous verrons bien ce que donneront ces élections européennes. Et au final, alors, Laetitia, tous ces messages, ces mains tendues, ces tentatives de déminage dans ce discours, c'est vécu comment par les catholiques ?
Alors, pour tenter de le savoir, j'ai demandé au journaliste de La Croix, Gauthier Vaillant, de m'ouvrir le courrier des lecteurs, qui est toujours un bon baromètre de l'opinion des catholiques. Ils ont été très nombreux à réagir au discours des Bernardins. Gauthier Vaillant nous lit quelques lettres.
Merci, Monsieur le Président, d'avoir défini votre conception de la laïcité qui me rassure. Je reste toujours opposé à la politique sociétale de votre programme. Que font vos sbires, Monsieur Macron, ne serait-ce que vis-à-vis des sans-papiers ? Je constate que les obligations de quitter le territoire tombent comme à gravelotte. On a des courriers qui sont assez vindicatifs, finalement. Ici encore, Monsieur Macron a fort bien et très justement parlé avec moult citations bien appropriées au contexte. Restent les sujets sur lesquels la République a été précisément interpellée. Et sur ces sujets, force est de constater que le président s'est révélé d'une totale transparence au sens littéral du terme. Donc là, le message, il est très clair, c'est Monsieur le Président, vous nous avez dit des belles choses, mais sur les migrants, sur la fin de vie, sur la politique familiale, sur la PMA, on ne sait pas ce que vous pensez, on ne sait pas ce que vous allez faire, et ça, ça nous inquiète. Et sur ce plan-là, on n'a pas été rassurés.
Oui, à la fois satisfait, ironique, mais surtout pas vraiment rassuré. Et pour finir alors, au Vatican, comment ce discours présidentiel a été reçu ?
Eh bien, très bien, selon des sources proches du Vatican. Et, hasard de calendrier ou pas, le 26 juin prochain, Emmanuel Macron devrait justement rencontrer le pape François au Vatican. Vous vous souvenez, l'homme qui disait ne pas connaître le président il y a un an.
Merci Laetitia Chérel pour cette enquête que vous pouvez réécouter ou podcaster sur franceinter.fr ou sur l'appli France Inter. Vous pouvez aussi la commenter sur la page Facebook de Secret d'Info ou sur Twitter, Investigation RF. Allez, restez avec nous. Dans un instant, on va tout vous dire sur un conflit d'intérêts au sommet de l'État. The Other, la dernière ballade envoûtante du groupe King Tuff.
Secret d'info, Benoît Colombat, sur France Inter.
Alors nous recevons à présent Martine Orange, vous êtes journaliste à Mediapart et pour que les choses soient tout à fait transparentes, je précise que nous avons travaillé ensemble il y a quelques années pour un livre qui s'appelle « Histoire secrète du patronat ». Et si on vous reçoit cette semaine dans Secret d'Info, c'est parce que vous venez de publier une série d'articles sur un pantouflage au plus haut niveau de l'État. Le pantouflage, ce sont ces allers-retours entre public et privé. L'actuel secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, a travaillé pour le numéro 2 mondial du transport maritime, une compagnie italo-suisse qui s'appelle MSC, Mediterranean Shipping Company, un armateur au cœur de transactions avec l'État, et c'est justement ce qui pose problème. Et ce que vous révélez, Martine Orange, c'est que le numéro 2 de l'Élysée a un lien familial avec cet armateur.
Oui, c'est ça la principale découverte de toute cette affaire, c'est que effectivement Alexis Kohler est le cousin germain du fondateur et principal actionnaire de cette immense compagnie de transport maritime. Et c'est un lien qu'il n'a jamais exposé publiquement.
Le problème que vous soulevez, c'est celui du conflit d'intérêts, c'est-à-dire qu'à ses différents postes, à l'Agence des participations de l'État, au ministère des Finances, que ce soit avec Pierre Moscovici ou Emmanuel Macron, Alexis Kohler travaille sur ce dossier, des dossiers qui concernent cette société, avant de partir dans le privé. Et il devient alors directeur financier de ce fameux géant des croisières.
Oui, c'est effectivement le nœud du problème et le nœud du conflit d'intérêts qui occupe Alexis Kohler. C'est que il avait ses liens familiaux et il, à chaque fois qu'il a voulu aller dans le privé, il a voulu aller rejoindre ce groupe de transport maritime. Mais en même temps, pendant près de 10 ans, il a été à des postes où il a été directement partie prenante à des décisions de l'État qui influait sur la vie de ce groupe de transport maritime. Et ce groupe maritime est le premier client des chantiers de Saint-Nazaire.
Des chantiers navals de Saint-Nazaire.
Des chantiers navals de Saint-Nazaire. Et à partir de ce moment-là, l'État fait beaucoup pour soutenir l'activité des chantiers navals de Saint-Nazaire. D'une certaine façon, l'État subventionne les clients des chantiers navals de Saint-Nazaire. Et donc, comme le premier client, c'est MSC, Alexis Kohler était donc d'un côté de la barrière où il était représentant de l'État au conseil d'administration des chantiers navals de Saint-Nazaire. Et à partir de ce moment-là, il y a des décisions importantes qui se prennent, puisque à l'époque, les chantiers navals vont très mal et il y a une commande importante qui est justement cette commande de MSC dont dépend la survie des chantiers et au point que la Caisse des dépôts interviendra pour porter le crédit de ce bateau. Un paquebot, c'est entre 500 millions et 1 milliard. C'est là où l'État accompagne, se porte garant, donne des facilités de crédit. Et donc, à chaque fois, Alexis Kohler est au cœur de la machine et au cœur de cette décision financière.
Et c'est là où vous dites qu'à partir du moment où Alexis Kohler va travailler pour ce groupe de transport maritime et qu'il a eu à de près ou de loin étudier des dossiers qui le concernaient, il est des deux côtés de la barrière.
C'est ça, parce que d'un côté, il est tout à fait légitime que l'État aide les chantiers navals de Saint-Nazaire. Mais là où monsieur Alexis Kohler aurait dû respecter les règles déontologiques, c'est-à-dire qu'il aurait d'abord dû déclarer publiquement qu'il avait des liens avec ce groupe, il aurait dû se mettre en retrait. Il y a déjà plusieurs hauts fonctionnaires qui ont fait ça, qui ont déclaré qu'ils étaient directement en conflit d'intérêts sur certains dossiers. Ils l'ont déclaré publiquement, par écrit. Et ils ont dit, sur tous ces dossiers, je me garde bien d'intervenir.
Et alors, ce que vous révélez également, Martine Orange, c'est que Alexis Kohler participe notamment, comme directeur financier de Mediterranean Shipping Company, MSC, il participe à une réunion en mars 2017 au ministère des Finances.
Oui, nous sommes en plein dans la bataille sur qui va reprendre les chantiers navals et dans quelles conditions. Et l'on voit Alexis Kohler, qui 6 mois avant était le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, ministre de l'économie, et qui donc était chargé de ce dossier. Et on le revoit 6 mois plus tard en tant que représentant de MSC comme directeur financier et qui vient défendre la cause de MSC auprès de ses anciens collègues et amis. La situation est tellement incongrue que le secrétaire d'État à l'industrie, Christophe Sirugue, s'étonnera de le voir revenir dans les murs de Bercy dans de telles conditions et regardera s'il peut y venir. Formellement, il le pouvait. On a le problème de la légalité par rapport au respect des règles de déontologie.
Justement, ce qui paraît étonnant, c'est que la commission de la déontologie de la fonction publique, qui doit normalement donner son feu vert à ces allers-retours entre public et privé, eh bien, dans cette affaire, elle a changé d'avis.
C'est un vrai sujet, la commission de déontologie, en général dans le pantouflage des hauts fonctionnaires, mais sur ce sujet en particulier. Puisque une première fois, Alexis Kohler, alors qu'il était directeur de cabinet adjoint de Pierre Moscovici, alors ministre des Finances, demande à rejoindre MSC et la commission de déontologie lui donne un avis défavorable en disant « vous ne pouvez pas y aller ». Alexis Kohler reste à Bercy et lorsque Emmanuel Macron démissionne de son poste de ministre de l'économie, donc fin août 2016, Alexis Kohler, à ce moment-là, demande à nouveau à rejoindre MSC. Et là, la commission de déontologie se déjuge et lui donne un avis favorable sur une attestation que lui fournit Emmanuel Macron, assurant que Alexis Kohler n'a jamais touché au dossier. Chantier naval de Saint-Nazaire, MSC, ce qui est totalement étrange dans la mesure où les chantiers naval de Saint-Nazaire ont occupé tous les ministres des Finances et de l'Économie depuis 2009. La commission semble obéir à la simple attestation d'Emmanuel Macron, se déjuge, donne un avis favorable au pantouflage de M. Kohler et en plus l'entoure de garanties et de réserves minimalistes. Il a interdiction de rencontrer les anciens membres de son cabinet.
Alors là-dessus, sur ces réserves données par la commission, en février 2017, j'avais également enquêté sur le pantouflage pour Secret d'Info et j'avais interrogé là-dessus le président de la commission de déontologie, Roland Paillet, sur le respect des réserves que la commission peut émettre sur tel ou tel cas. Écoutez sa réponse.
Nous ne sommes pas chargés de faire la police des réserves que nous appliquons. Ça, il appartient à l'administration de le faire. Mais d'une façon générale, nous pensons que la formulation de ces réserves, et nous avons la faiblesse de croire qu'elles ont une portée, que les personnes qui les reçoivent ne s'assiedent pas dessus si elles sont prises.
Alors nous ne sommes pas chargés de faire la police des réserves que nous formulons, elles ont une portée, dit la commission de déontologie. Votre réaction, Martine Orange ?
Ça illustre parfaitement ce que la haute fonction publique pense des règles de déontologie. C'est-à-dire que nous sommes dans le royaume de l'autorégulation, les règles sont totalement floues. Alexis Kohler aurait dû se démettre et n'aurait jamais dû accepter le poste d'administrateur au chantier naval de Saint-Nazaire compte tenu de sa situation. Il aurait dû révéler ses liens familiaux avec MSC.
Alors de son côté, l'Élysée explique, je cite, qu'Alexis Kohler a toujours respecté l'ensemble des règles légales et réglementaires qui encadrent les activités et les responsabilités des fonctionnaires. Il a toujours informé sa hiérarchie des situations dans lesquelles il aurait pu se trouver en conflit d'intérêts, dit l'Élysée, et il s'est toujours déporté, c'est-à-dire écarté, afin d'éviter les situations problématiques et il a toujours respecté les avis de la commission de déontologie.
J'ai interrogé un certain nombre de personnes à Bercy ou même des anciens ministres, etc. Tous ne connaissaient pas les liens familiaux qui existaient entre Alexis Kohler et MSC.
Il faut rappeler que la règle, c'est qu'un agent public n'a normalement pas le droit de traiter avec une entreprise avec laquelle il a des liens.
C'est la règle de base, il ne doit pas y avoir de doute sur la décision de l'État. Donc à partir de ce moment-là, pour éviter le moindre soupçon, il doit y avoir une muraille de Chine entre des intérêts privés et la sphère publique. Or là, on s'aperçoit que cette muraille de Chine a éclaté depuis plusieurs années. On a un brouillage complet maintenant entre des intérêts publics et la sphère privée qui sont de plus en plus emmêlés. On commence dans l'État, on va dans le privé, on retourne dans l'État, on repart dans le privé, c'est-à-dire qu'il y a des allers-retours permanents entre le monde privé et le monde public qui opacifie complètement toutes les chaînes de décision avec des intérêts privés qui ne cessent de vouloir capturer l'appareil d'État à son profit.
Merci Martine Orange. Vos articles, Alexis Kohler, un mensonge d'État à l'Élysée et conflit d'intérêts, la réunion qui trahit le numéro 2 de l'Élysée, sont à retrouver sur le site de Mediapart. C'est la fin de Secret d'Info. Merci à Martin Broyer qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à notre réalisateur Christophe Imbert. Merci à Alexandre Chenet à la technique aujourd'hui. Et merci à Jean-Baptiste Audibert pour la programmation musicale. Dans quelques instants, vous retrouverez Denis Chessou, CO2 Mon Amour, sur les traces de l'intelligence des plantes. La cellule investigation de Radio France revient samedi prochain. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end.